L'actu des oubliés. Saison 4. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Pour ce 13e épisode, cap sur le Panama, qui a connu à l'automne une mobilisation inédite pour s'opposer à la plus grande mine de cuivre d'Amérique latine. Et si le conflit est plutôt passé sous les radars, il pourrait bien être le reflet d'un mouvement d'ampleur dont le grondement s'amplifie sur le continent américain. Avec nous pour en parler, Jean Foyer, anthropologue-chercheur CNRS au CREDA, le Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques. La mine de cuivre à ciel ouvert Cobre Panama, détenue par la compagnie canadienne First Quantum Minerals, se trouve dans le corridor de forêt tropicale primaire encore intact qui relie l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. La Mésoamérique est en effet le seul point de passage pour nombre d'espèces entre le Mexique et la Colombie. Par son étroitesse, ce pont de biodiversité entre deux immensités concentre d'autant plus de richesses animales et végétales, à la manière d'un entonnoir. On écoute Jean Foyer.
C'est une mine dont la concession date de 1997, mais qui n'est entrée en opération qu'en 2017-2018. Donc il y a eu d'abord tout un premier travail de construction de la mine, c'est-à-dire construction d'une route qui part de la Panaméricaine pour accéder à la mine, donc dans une zone de jungle qui a été rasée pour pouvoir creuser la mine. Et il y a une autre route qui part de la mine pour aller sur la côte Caraïbes pour extraire les minerais, enfin pour faire partir les minerais. Donc c'est d'abord une très très grosse infrastructure, mais si tu veux, la construction de l'infrastructure et la destruction du bosquet tropical que ça supposait a pas vraiment posé de problème à l'époque. Enfin, il y a pas eu beaucoup de débats. C'est pas un projet qui a fait l'objet d'une remise en question et d'un débat fondamental, d'autant plus qu'il y a pas vraiment de population locale, en fait. Et là, il y a pas vraiment eu de mobilisation locale ni nationale avant cette année, en fait.
C'est tout simplement la plus grande mine de cuivre d'Amérique latine. Un trou de 13 600 hectares comprenant des terrils de déchets miniers et des bassins de boues toxiques. La mine marque aujourd'hui une frontière abrupte dans la forêt tropicale, avec ses immenses fosses d'extraction creusées à l'explosif, ses canalisations qui serpentent sur la terre désormais vierge de racines et d'humus, et ses centaines de machines, pelles et grues. 7300 personnes travaillent dans cet enfer industriel. La pluviométrie très élevée dans la région rend en outre inévitable tout type de pollution, en particulier parce qu'à tout moment, les digues peuvent céder et laisser s'échapper des boues toxiques dans les cours d'eau qui jalonnent la forêt. C'est déjà le cas en 2021, lorsqu'un tuyau rompt et se déverse dans le fleuve Pifa. Au total, plus de 200 irrégularités sont constatées en 5 ans d'exploitation, la plupart constituant des rejets toxiques volontaires. La société minière a en outre construit de toutes pièces un complexe industriel et portuaire à 20 km de là, sur la côte Caraïbe. Punta Rincón, autrefois côte sauvage, voit désormais défiler les cargos devant l'immense centrale électrique qui produit l'énergie pour alimenter l'ensemble. Cerise sur le gâteau, elle fonctionne au charbon. Mais sur son site, First Quantum se vante d'être socialement responsable et de produire du cuivre qui permette de fabriquer des composants pour accompagner la transition écologique. Si tu rap suena los 90, entonces desde los 80, más clásico, más básico, pero con plomo en la tinta. Nunca conocerás a tu enemigo si no lo enfrentas. Apenas esto te empezando y te has comido como tres fintas, ya. Yo sigo metido en lo mío y no pierdo el enfoque. Apache, Cafu, Banton, what happened, motherfucker? Si no nos conoce, entonces no nos tildes, no la choques, que yo ando solo en mis toques, con mi staff y con mi.
En 2017 déjà, des organisations sociales et environnementales obtenaient un arrêt de la Cour suprême déclarant le contrat inconstitutionnel car il revenait à vendre un fragment du territoire national à une compagnie étrangère. Or, il faut 5 ans pour que cet arrêt soit publié au journal officiel. Durant tout ce temps, la compagnie défriche, construit et dès 2019 exporte son cuivre vers la Chine, le Japon et l'Europe.
La concession a été jugée inconstitutionnelle. Et après, ça a été une espèce de patate chaude où le gouvernement savait pas trop quoi faire de cette inconstitutionnalité. Alors, ça a été décrété inconstitutionnel, mais c'était publié au journal officiel qu'en 2021. Donc théoriquement, ça doit arrêter les opérations de la mine, mais il y a eu un investissement massif de 10 milliards de dollars. Et c'est ce type d'infrastructure, c'est des investissements prévus sur 30 ans. Donc fermer une mine avec les enjeux d'emploi comme ça, enfin même la décision et même la publication au journal officiel posait vraiment un problème. On ne peut pas fermer cette mine du jour au lendemain.
En octobre dernier, le Parlement approuve donc en 3 jours la loi 406 qui entérine un nouveau contrat et prolonge la concession de 20 à 40 ans.
Le gouvernement de Nito Cortizo, donc, qui avait un peu hérité de cette patate chaude, décide de renégocier les termes du contrat. Il renégocie plutôt bien. On passe de quelques dizaines de millions, je crois, à 370 millions par an, donc ce qui n'est pas négligeable pour un pays de 4 millions d'habitants. Et décide de faire une loi, un contrat-loi, contrato-ley, en fait, c'est un contrat de concession avec la mine qui renouvelle la concession de la mine. Et en fait, c'est à ce moment précis que les Panaméens estiment que, ça a été fait derrière leur dos, ça a été fait à la va-vite, ça n'a pas été fait avec suffisamment de consultations. Et là où tout le monde s'en foutait un peu avant, pour le dire clairement, tout d'un coup, ça prend une proportion. Vraiment, ce qui met le feu aux poudres, c'est la manière de faire du gouvernement. Il y a vraiment le sentiment d'un passage en force. Et puis, ça vient dans un contexte de ras-le-bol et de déception vis-à-vis du gouvernement de Nito Cortizo, du PRD, qui est censé être un parti progressiste. Et je pense qu'une partie de la population panaméenne, y compris ceux qui ont voté pour le PRD, se sent flouée et sort dans la rue pour contester ce contrat-lay, ce contrat-loi. Puis ce qui est surprenant, c'est l'ampleur de la mobilisation que ça a provoqué.
Immédiatement, la population se lève et remplit les rues du pays comme jamais depuis 1989. Le pays ne sera pas vendu, il sera défendu, scande le peuple panaméen. Les rues sont bloquées, à commencer par la panaméricaine. Les transports publics sont suspendus, les écoles fermées. Les marchés ne sont plus approvisionnés et les stations-service souffrent de pénuries. Même le port de Punta Rincón est bloqué par ses propres salariés, forçant l'entreprise canadienne First Quantum à revoir ses exportations à la baisse. Diogenes Sanchez, manifestant, confie à RFI.
L'économie ne peut pas être plus importante que la vie. Le Panama n'a pas de tradition minière et nous militons pour une économie verte. C'est ce que nous défendons aujourd'hui dans la rue et nous allons le faire sentir à tout le pays. Toute la population est contre cet accord, d'autant qu'il y a aussi des soupçons de corruption. On savait que le gouvernement allait imposer de force ce contrat, mais le peuple panaméen, lui, ne l'a pas signé. Alors c'est dans la rue que nous allons faire échouer ce projet minier.
Le défaut de souveraineté qui est induit par la forme du contrat ulcère nombre de Panaméens et de Panaméennes. Il permet en effet à l'entreprise d'exproprier des territoires, y compris en dehors de la zone de concession, et lui laisse la pleine gestion des ports et aéroports qui desservent la mine. La situation fait directement écho à la présence prolongée de l'armée des États-Unis qui gérait le canal de Panama jusque dans les années 2000. La militante écologiste Raissa Banfield déclare à l'AFP
« Aucune entreprise étrangère ne peut venir ici nous brandir ses millions et dire que parce qu'elle investit, elle peut faire ce qu'elle veut. »
Il y a des raisons politiques, mais il y a aussi des raisons écologiques. Je pense que les Panaméens l'ont vu comme tout d'abord une atteinte à leur souveraineté. Il y a un truc vraiment important à prendre en compte dans ce pays, c'est le souverainisme, le nationalisme panaméen qui est très fort du fait de l'histoire du pays. Il faut se dire que c'est un pays indépendant, vraiment, réellement indépendant que depuis 2000. Et la rétrocession du canal de Panama, il faut imaginer ce que ça fait un pays qui ne contrôle pas une bande de 20 km sur 80 km de haut, ce qui était contrôlé entièrement par l'armée américaine, où les Panaméens avaient des contrôles quoi, pour passer, ne circulaient pas du tout librement sur leur territoire et sur une partie absolument centrale de leur territoire. Il y a un ressentiment très fort vis-à-vis de l'occupation américaine, on va dire. Il y a vraiment une énorme fierté et d'avoir récupéré le canal de Panama, d'en avoir fait quelque chose de rentable. Je pense qu'il y a eu vraiment ça qui a joué aussi énormément. ce côté d'investissement étranger, tu vois, le fait que ce soit une entreprise canadienne avec aussi des fonds chinois, ça a été un argument hyper important parce que quelque chose autour de la souveraineté du sol, enfin dans la constitution panaméenne, avec ce traumatisme vis-à-vis des Américains, dit que il doit pas y avoir d'autres États qui possèdent des parts du territoire panaméen. Ça renvoie vraiment à cette histoire du canal. Et là, le fait qu'il y ait des parts dans une entreprise publique chinoise était vraiment interprété comme les Chinois sont en train de nous voler nos ressources naturelles et avec elles notre eau. En fait, la question de l'eau a été hyper importante d'un point de vue symbolique dans la mobilisation. Il y a une saison sèche très longue. Le niveau du canal a baissé. Pour la première fois, l'été d'avant, ils ont dû diminuer les passages des bateaux. Et il y a eu un argument qui était de dire que la mine consommait beaucoup d'eau. Ça, c'est un truc qu'on a beaucoup entendu. Alors, ce qui est complètement vrai, hein, une mine en fonctionnement, ça nécessite énormément d'eau. Là où l'argument est en partie spécieux, c'est que c'est pas le même bassin versant que celui du canal de Panama. Mais l'eau est vraiment perçue comme un patrimoine. Là, ça a été vraiment quelque chose de fort, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, hein, ce qui explique l'ampleur de cette mobilisation relativement spontanée, hein, enfin, extrêmement rapide et massive par rapport aux forces d'écologie politique qui étaient présentes à la base, quoi, tu vois, à la faiblesse des organisations et de la structuration. Il y a un côté relativement spontané et sur ces deux arguments, quoi, défense de l'eau parce que patrimoine panaméen et le sentiment d'être pillé par des puissances étrangères, nord-américaines et chinoises, et puis un ras-le-bol un petit peu du contexte politique. Mais mon but n'est pas de minimiser la dimension écologique, parce que je te dis, j'étais le premier surpris de la prégnance et l'importance des argumentaires écologiques.
Même si jusqu'à récemment, elle se cantonnait à l'échelle locale, paysanne et indigène, le Panama a déjà eu des épisodes de lutte contre l'industrie extractive. Elle avait notamment conduit dans les années 90 à deux belles victoires contre les mines de Santa Rosa et Remance. Ce sont d'ailleurs les communautés paysannes et indigènes qui sont fer de lance de cette mobilisation, accompagnées des enseignants et enseignantes qui se mettent en grève illimitée dès le 23 octobre, et d'une jeunesse urbaine manifestement sensible au patrimoine écologique et aux problématiques environnementales. L'or du Panama est vert, entend-on dans les cortèges. Et oui à la santé, oui à l'eau, non à la mine.
Oui à la mine !
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 La répression est violente et suscite elle aussi l'indignation. Lorsque les jeunes de la capitale organisent le siège de l'Assemblée pour obliger les députés à donner la parole au peuple, la police charge et tire au flashball. Un jeune homme perd un œil. L'emploi de la violence d'État pour sauver une multinationale canadienne criminelle ne passe définitivement pas. Plus d'un millier de personnes seront arrêtées, des dizaines seront blessées et 4 personnes décèdent sur les barrages routiers. Les conducteurs et conductrices des transports publics paralysent le pays en rejoignant la grève illimitée, imitée de manière plus ponctuelle par les infirmiers, infirmières et travailleuses du bâtiment. Et donc, les salariés du port de Punta Arenas se mettent aussi en grève et utilisent leurs propres embarcations pour fermer le port dédié aux activités de First Quantum Minerals. Du jamais vu.
Alors, formellement, ça prend la forme de paros, de barrage, en fait, de blocage. Blocage de route. En fait, le Panama est un pays complètement étiré d'est en ouest à travers un seul axe. Donc, c'est un pays relativement facile à bloquer. Tu bloques la Panaméricaine, tu bloques le pays. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Il y a eu des barrages pas mal organisés, mais pas que par les autochtones, enfin par les Nobés, notamment la région du Chiriquí. Et en fait, c'est même très efficace parce que ça bloque l'approvisionnement de la ville. En fait, le Panama est un pays où la ville de Panama est beaucoup alimentée d'un point de vue agricole par toute la production qui se fait sur l'ouest, à la frontière du Costa Rica. Rare zone productive du point de vue horticulture, fruits, légumes, ça vient beaucoup de là-bas. Et de l'autre côté, c'est un peu bloqué par la frontière avec la Colombie, qui est une jungle épaisse et dans laquelle il n'y a pas de route. Donc en fait, si tu bloques la route d'accès au Chiriqui, tu bloques l'alimentation. Et alors là, les prix montent en flèche, quoi. Ça te donne une idée de l'efficacité du blocage. Et en plus, il y a toutes les grandes familles qui contrôlent l'agriculture dans le Chiriqui qui perdent énormément d'argent dans ces histoires de blocage. Plus toute l'industrie du tourisme. Ah là, les touristes, ils venaient plus trop, quoi. Si tu peux plus prendre la panaméricaine... Donc ça, ça a contribué à mettre une grosse pression sur le gouvernement de Nito Cortizo parce qu'ils se sont retrouvés à arbitrer entre, certes, un intérêt économique énorme, qui était celui de la mine, mais aussi d'autres intérêts économiques très importants dans le pays, ceux du tourisme, ceux de l'agriculture, qui perdaient également beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent au fur et à mesure que les paros, les blocages ne faiblissaient pas.
Le 28 octobre, la mobilisation atteint un paroxysme. Les rues de la capitale sont occupées une bonne partie de la nuit. La ville résonne des casseroles et des feux d'artifice qui célèbrent cette démonstration de force. Le lendemain, le président panaméen annonce la tenue d'un référendum pour régler la question. En vain. Le jour suivant, les rues sont à nouveau noires de monde. La décision du peuple, elle, est là. Retire la loi 406, clame le Panama. Or, face aux enjeux énormes que représente la Cobre Panama, l'exécutif est prêt à lâcher beaucoup. Le 3 novembre, il tente un coup de poker. En faisant voter la loi 1110, il interdit jusqu'à nouvel ordre l'octroi de toute nouvelle concession minière dans le pays. Les 15 mines actuelles, y compris celle de Quantum, continueront à opérer. Mais aucune nouvelle installation ne pourra être acceptée tant que cette loi sera en vigueur, ni par le gouvernement actuel, ni par les prochains. Étonnamment, cette loi passe presque inaperçue, tant l'effet escompté de calmer la colère est encore un coup dans l'eau. Les blocages se maintiennent. Ce n'est pas ce qu'a demandé le peuple, répondent les protestataires, qui installent un campement de 12 jours autour du bâtiment qui abrite la Cour suprême de justice. Celle-ci doit rendre un jugement sur la loi 406 et donc valider le nouveau contrat passé avec First Quantum pour la mine de Cobre Panama. Une banderole annonce « Cour suprême de justice, le peuple te surveille ». Puis le 28 novembre, la décision tombe. 25 articles de la loi 406 sont considérés inconstitutionnels. Les plaintes pour pollution, enfin prises en compte, rejoignent le manque d'autorisation publique et l'absence de consultation des populations locales à la longue liste d'arguments que donne la Cour pour exiger la fermeture de la mine. Dans les rues, la joie explose. Dehors, les rats qui ont vendu le pays, exulte-t-on sur les paros. Edwin Rodriguez, professeur, exulte.
Hemos demostrado que la unidad hace la fuerza. Hemos logrado extirpar.
Nous avons démontré que l'unité fait la force. Nous sommes parvenus à extirper le cancer de l'industrie minière de notre pays.
Quand ça a commencé, je me suis dit non mais de toute façon jamais ils vont fermer. Le truc, c'est pas possible de fermer un truc avec 7500 emplois directs, 10 milliards investis, les intérêts avec la Chine, avec le Canada et tout ça. Jamais ils vont réussir à faire fermer le truc. Ils vont réussir à renégocier quelque chose de mieux. Ils vont faire monter les enchères. C'est un pays ultra capitaliste, quoi. C'est un pays ultra capitaliste, même la gauche est ultra capitaliste, ultra libérale, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Il y avait vraiment des énormes enjeux. J'imaginais absolument pas la possibilité d'une fermeture, mais au bout d'un moment, en fait, c'est devenu quand même quelque chose qui s'est passé. C'est que à un moment, le coût économique et le coût politique est devenu tellement exorbitant que, basiquement, là, ils étaient en train de jouer et leur réélection, parce que là, c'est une année d'élection, là, il y a des élections prochaines en mai. Là, s'ils étaient passés en force sur cette histoire, ils étaient sûrs de ne pas repasser. Donc, ils jouaient, leur élection, Et ils jouaient deux à un moment. Ça commençait à coûter extrêmement cher à beaucoup de gens, quoi. Donc, je pense qu'ils ont fait le choix de sacrifier la mine, quoi. Mmh. Parce qu'ils ont lâché beaucoup, hein. Ils ont fait une loi, l'impossibilité d'attribuer des nouvelles concessions. Et tu t'assois sur une des richesses du pays, quoi. C'est quand même un choix un peu costaud, quoi. D'un point de vue économique, ça engage des trucs. Donc, ils ont fait ça en pensant que ça allait calmer les gens, ça ne les a pas calmés. Quelque chose qui semblait complètement impossible quelques semaines, voire quelques jours avant, est devenu possible, quoi.
Dans la foulée, l'entreprise canadienne met en garde contre les conséquences écologiques d'une fermeture prématurée de la mine et prévoit déjà une plainte au tribunal international d'arbitrage, ce tribunal autofinancé par les multinationales qui vise à condamner lourdement les États qui cassent les contrats qui les lient à ces mêmes multinationales. Plus tardivement, First Quantum réclamera 20 milliards de dollars au Panama. Et en attendant la mise en application de la décision de la Cour suprême, le cuivre sort toujours de Puerto Rincón.
Alors là, par contre, Quantum continue à opérer, hein, dans les faits, très concrètement. Les bateaux continuent à partir. Eux, ils essayent d'en tirer un maximum tant que le plan des Sierres, tant que le plan de fermeture, c'est pas fait. Et fermer une infrastructure comme ça, t'imagines, tu vois, si tu mets 20 ans à la construire, parce que les avocats environnementalistes veulent un plan des Sierres propre, quoi. C'est-à-dire reboisé... Ouais, tu penses que là, l'entreprise canadienne, elle est moyen motivée pour fermer le truc proprement et engager des coûts de fermeture, sachant qu'ils en ont exploité qu'une toute petite partie, quoi, de ce qu'ils comptaient exploiter. Ils ouvraient d'autres gisements, quoi. Quantum, je pense, n'ont pas complètement renoncé encore à livrer la bataille. Ils se disent pas, c'est bon, on plie et on s'en va, quoi.
D'autant que Cobre Panama est considéré comme la plus grande réserve de cuivre au monde, avec une extraction de 300 000 tonnes de concentré de cuivre par an et une durée de vie estimée à 36 ans. C'est dire si First Quantum espérait un juteux retour sur investissement. Mi-avril, rien n'a donc encore bougé. En mars, quelques manifestations et une journée de grève nationale ont encore réuni la coalition Unie pour la vie pour exiger la mise en place de la décision de la Cour suprême, dénoncer la criminalisation de la lutte et témoigner de la vigilance populaire à 3 mois des élections présidentielles. Cambian la cultura que de unión les enseñó, por ritmos abre piernas que los hagan millonarios. Ustedes no entienden que yo no voy a ir con la corriente, que no lo hago por moda ni pa' joder a la gente. No inventen si hay mente, un vidente en acción interpretando imágenes rimando. Volando, yo rapeando 507 Panamá representando el emblema de GS en el corazón llevando donde sea que vaya cuatro elementos apoyando sin pena esta se la estamos dedicando. Ça va être très 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 compliqué quand même pour les gouvernements de revenir sur une décision constitutionnelle et deux une annonce présidentielle de fermeture. Là vraiment je sais pas qui va assumer le coup politique et le risque d'inflammation du pays, de revenir sur ces deux trucs-là, là, je pense que ça va être difficile de faire machine arrière. Par contre, je pense qu'on peut attendre une stratégie de l'entreprise et des prochains gouvernements de faire pourrir un peu la situation ou de la faire durer un maximum de temps. Ça, c'est sûr. Du degré de suivi par la société civile dépend un peu le rythme de fermeture et le degré de propreté de la fermeture. Ça peut prendre plusieurs années, très clairement, et je pense que l'entreprise compte un peu là-dessus, hein. Ils ont déjà mis l'argent, ils ont déjà tout en place, donc s'ils peuvent récupérer quelques années, je pense qu'ils vont le faire, quoi. Ils vont pas se priver. Donc il y a cet enjeu-là, mais je vois mal comment, sauf coup de théâtre, on pourrait revenir sur cette question-là, quoi. Mais à un moment, ça va. Enfin, je pense qu'aussi, ça va ressortir. Si dans 2 ans, c'est toujours pas fermé, on peut imaginer de nouvelles mobilisations. Mais bon, moi, j'imagine plus rien du tout. Parce que ce que j'imaginais pas du tout s'est passé. Et que je préfère ne rien imaginer. On peut juste faire des hypothèses, quoi. La loi 1110 qui interdit l'octroi de nouvelles concessions minières est-elle toujours en vigueur? Celle-ci n'est pas la première du genre en Amérique latine. En 2017, le Salvador devenait le premier pays au monde à adopter une loi mettant fin à l'industrie minière dans le pays. Il s'agissait tant de chasser les multinationales que les orpailleurs artisanaux, pour, selon le mot d'ordre du président, cesser une activité qui ne représente que 0,3% du PIB, mais qui détruit 90% de nos eaux. Dans un pays déjà considéré comme vulnérable sur le plan écologique et marqué par les luttes indigènes contre l'industrie minière, la loi avait été accueillie avec beaucoup de joie, et le processus avait même été soutenu par des marches où l'on chantait « oui à la vie, non à la mine ». Si au Panama, le peuple a arraché cette loi par le blocage du pays, sa détermination est d'autant plus symbolique que la manne financière que constitue l'industrie minière est ici plus importante. Les revenus issus de la seule Cobre Panama sont estimés à 5% du PIB. Mais finalement, l'idée est la même. Préférer la préservation des écosystèmes à la perspective d'emploi et de retombées économiques potentielles. No es por menospreciar, pero qué tontería ser tonto por sobrevivir y por voluntad. Pienso que cambiar al mundo es una idea genial, pero de aquellas que sin revolución jamás pasará.
Jamás, así nunca va a cesar. La revolución empieza dentro de uno. Creando.
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu quand même une des rares fois où on a fermé la mine et que là, on peut parler de vrai anti-extractivisme, c'est-à-dire que les Panaméens ont clairement demandé qu'on ferme la mine, alors pour différentes raisons, mais aussi, tout simplement, ils ont préféré leur eau à la mine et l'argent qu'elle pouvait générer. Quoi. Ça, je pense qu'on peut vraiment le dire, quoi. Et ça, c'est relativement nouveau, parce qu'avant, l'eau, si tu veux, c'était perçu comme une ressource hyper abondante. Là-bas, il pleut à fond, tout ça. Mais là, avec cette histoire de baisse du niveau du canal, quand ça devient tangible, quand les enjeux écologiques deviennent tangibles, c'est-à-dire que les gens peuvent vraiment se rendre compte, là, effectivement, il y a moins d'eau dans le lac et il y a moins de bateaux qui passent, quoi. Les gens se sont mobilisés pour ça, quoi. Enfin, en grande partie pour ça, quoi. On avait beau leur présenter les chiffres faramineux des royalties et puis des bénéfices et puis de tous les emplois. Les gens sont quand même restés mobilisés contre, ils disaient, non, mais t'auras beau me dire ce que tu veux. Moi, je veux que ça ferme parce que c'est plus important, quoi, que ça ferme. Donc, je trouve que c'est quand même une situation assez originale. Ça veut dire qu'on peut imaginer des mobilisations d'ampleur nationale, même si c'est un petit pays, et des arbitrages et des rapports de force qui tournent en faveur quand même des arguments écologiques. Mais les arguments économiques n'ont pas été suffisants, quoi. Le gouvernement n'a pas pu acheter la paix sociale avec une loi interdisant les concessions avant, quoi. Les Panaméens ne sont pas prêts, même sans la loi, de revoir un investissement minier, quoi, à mon avis. Quand bien même, légalement, ils seraient autorisés, vu le précédent que ça crée, t'es une entreprise qui a 2-3 milliards, t'as pas envie de les mettre au Panama, hein. À ma connaissance, c'est un des rares pays en Amérique latine qui s'est décrété comme ça, libre d'exploitation minière. Quoi.
Ailleurs sur le continent, le combat et la victoire des Panaméens et des Panaméennes pour leur souveraineté, pour leur eau et leur forêt naturelle est célébré comme un espoir, comme un précédent qui démontre que finalement, nul multinational, nul gouvernement ne peut résister face à un peuple uni qui bloque le pays. Elle est aussi, peut-être, le témoignage d'une vague de fond qui émerge. Viviana Herrera, représentante de Mining Watch Canada en Amérique latine, affirme ainsi.
Je sais que des communautés ailleurs en Amérique latine suivent ce cas de près pour voir ce qu'ils peuvent utiliser dans leur propre lutte, de l'Argentine jusqu'au Mexique. Et il y en a beaucoup.
En écho, la victoire au mois de mars des communautés atacameños de l'altiplano argentin, où un tribunal vient de suspendre tous les projets d'extraction de lithium en cours, qui étaient alors en pleine expansion. Relevant les pompages illégaux qui ont mené à l'assèchement du fleuve et de la plaine du Trapiche, relevant le projet de construction d'un aqueduc pour aller prélever plus loin l'eau sans qu'il n'y ait eu d'études sur l'hydrographie de la région, relevant que les communautés n'aient pas bénéficié de consultations libres, préalables et informées, entre autres infractions, la Cour suspend toutes les activités minières et interdit à l'État et au ministère d'autoriser de nouvelles installations. En Équateur, enfin, où nous irons la semaine prochaine, nous verrons encore qu'une multitude de petites luttes s'opposent avec virulence et détermination contre les projets miniers, et surtout contre un gouvernement qui est prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition, y compris l'armée, pour imposer des projets qui désormais soulèvent l'indignation générale. Yo sé que uno está esperando que algún día desbonque, pero es como ponerse a comparar un mástil con un coque. Esta vaina pega duro como un bastonazo de coque, así que pónmela en el aire y quítame esa cara de boca. Echo dijo que esto fue lo
que de coca al guacoya. Yo digo que esto sin nosotros es como arroz chino sin salsa soya. No seas tan gilipollas y abre esa olla, pa' que veas como estos negros cualquier pista se la follan. No es sorpresa que pa' muchos seamos dolor de cabeza.
C'était le 13e épisode de l'Actu des Oubliés. Un grand merci à Jean Foyer pour sa participation, ainsi qu'à Léa qui a réalisé les doublages.
Con esfuerzo y sacrificio, metiéndole ganas desde el inicio, dedicación y mucho esmero, con paciencia, pasión y sin dinero, con la esperanza de que algún día esa oportunidad llegaría, con muchas ganas y una ilusión que se volvió emoción.
Pour plus d'infos sur nos sources et sur les musiques écoutées, rendez-vous sur l'audioblog L'Actu des Oubliés.